Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 31 décembre 2021. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. En République démocratique du Congo, 3 policiers ont été tués et 3 autres blessés par des miliciens la nuit dernière dans le sud Kivu. Le Niger a expulsé 8 Rwandais de l'ancien régime responsable du génocide en 1994 au Rwanda. Incendie dans le Colorado, plus de 33 000 personnes ont été évacuées. Le gouverneur de l'État, Jared Polis, a déclaré l'état d'urgence. Fin d'année 2021 sous le signe du coronavirus avec des festivités rigoureusement encadrées. Le monde s'apprête à entamer une 3e année de pandémie. Après le journal, ce sera l'économie et les sports. En République démocratique du Congo, 3 policiers ont été tués et 3 autres blessés dans l'attaque de leur poste par des miliciens la nuit dernière à Fizi, dans la province du Sud Kivu. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
D'après un haut responsable de l'armée, cette attaque a été menée par le groupe armé Mai Mai Yakutumba. Le territoire de Fizi est le fief d'un ex-officier de l'armée congolaise, William Amuri Yakutumba, qui a déserté l'armée régulière pour défier l'ancien président Joseph Kabila. Les Mai Mai sont des miliciens dont les actions vont de la défense de leurs intérêts communautaires à la grande criminalité. Le territoire de Fizi, qui abrite les hauts plateaux de l'est de la RDC, est aussi miné par un conflit à caractère communautaire opposant les Banyamulenge aux membres des communautés Bembe, Fuliro et Nyundu. Ce conflit prend racine autour du contrôle des terres et des ressources naturelles, mais aussi sur des contestations autour de l'autorité locale. Le groupe d'autodéfense Yakutumba est partie prenante à ce conflit et prétend défendre les intérêts des autres communautés locales contre les Banyamulenge. Lundi, un colonel, 3 soldats et 12 rebelles ont été tués dans cette région dans des combats contre la milice Banyamulenge.
Le Niger a expulsé 8 Rwandais avec interdiction permanente de séjour. Ce matin, l'avocate des Rwandais était face à la presse pour dénoncer cette décision, disant que ses clients sont entrés au Niger suivant un accord avec l'ONU suite aux décisions du TPIR dans le cadre du génocide rwandais de 1994. D'autres précisions avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Alors qu'il ne reste que 3 jours à ses clients pour quitter le territoire national conformément à l'arrêté signé par le ministre de l'Intérieur, l'avocate des 8 Rwandais a déclaré avoir introduit auprès des autorités un recours gracieux pour qu'elles reviennent sur cette décision qui viole selon elle à tous égards l'accord qui lie l'État du Niger aux Nations Unies sur ce dossier. Maître Amadou Kadigatou.
Ces Rwandais ont payé leur part à la société. Ils ont été acquittés. Ceux qui n'ont pas été acquittés ont purgé leur peine. Ils méritent de vivre. Et je vous informe que la Constitution du Niger, en son article 25, accorde une protection aux personnes âgées. Le Niger a ratifié plusieurs instruments régionaux et internationaux qui protègent les personnes âgées. Le plus jeune de ces 8 personnes a 60 ans. Le plus âgé a 85 ans. Si aujourd'hui le Niger se hasarde à exécuter l'arrêté et à expulser ces 8 personnes pour les remettre au Rwanda, le Niger engagera sa responsabilité civile et engagera sa responsabilité devant l'histoire et devant la scène internationale.
Pour l'avocate, les raisons diplomatiques évoquées par le gouvernement nigérien pour expulser ses clients sont surprenantes et dommageables pour un État de droit. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Les Sud-Africains continuent à rendre hommage à Desmond Tutu au deuxième jour d'une chapelle ardente à la cathédrale Saint-Georges du Cap, d'où il a condamné le régime de l'apartheid. L'actuel archevêque de la ville, Thabo Makboga, a répandu de l'encens autour du cercueil porté par 6 prêtres. Le corps du prix Nobel de la paix, décédé dimanche à 90 ans, sera réduit en poussière par aquamation, une alternative écologique à l'incinération à base d'eau. Ses cendres seront inhumées dimanche dans la cathédrale, a précisé le père Michael Wider. Nous y reviendrons dans la rubrique des dossiers. Le gouvernement sud-africain a annoncé que la première partie d'un rapport sur la corruption pendant la présidence de Jacob Zuma sera publiée la semaine prochaine. Le rapport Zondo comportera 3 volets. Le premier sera remis mardi au président Cyril Ramaphosa. Monsieur Zuma a multiplié les manœuvres pour éviter de témoigner, ce qui lui a valu en juin d'être condamné à 15 mois de prison pour entrave à la justice. Il est en libération conditionnelle depuis septembre pour raison médicale. Au Soudan, 2 femmes journalistes de la télévision Acharq à Khartoum ont été libérées, a indiqué cette chaîne saoudienne au lendemain de violences lors de manifestations. La mort hier de 5 manifestants, les dizaines de blessés par balle, les attaques contre Acharq et la chaîne saoudienne Al Arabiya et la coupure des communications ont relancé les craintes sur les intentions du nouveau pouvoir dominé par les militaires. La police a confirmé 4 morts et fait état de 297 blessés, dont 49 policiers. Ce vendredi, des manifestants ont bloqué des routes à Khartoum. Au Mozambique, près de 4000 personnes ont fui leur village en un mois dans le nord du pays en raison d'attaques djihadistes dans une province voisine de celle du Cabo Delgado, déjà en proie à une insurrection, a indiqué un responsable gouvernemental. Les insurgés qui sévissent depuis 4 ans dans le Cabo Delgado ont élargi ces dernières semaines leur zone d'action en lançant des attaques vers l'ouest jusqu'à la province de Niassa.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
440 migrants secourus par un navire du Sea-Watch ont été autorisés à débarquer en Sicile, a annoncé l'ONG allemande, ce qui porte à plus de 67 000 le nombre d'arrivées en Italie en 2021. Plusieurs navires d'ONG patrouillent au large de la Libye pour secourir des migrants venant d'Afrique. Cette semaine, le gouvernement italien a autorisé le Geo Barents de MSF avec 558 migrants rescapés à bord, accostés au port d'Augusta. Selon le HCR, plus de 114 000 migrants illégaux ont réussi à rejoindre l'Europe cette année et près de 2 000 sont morts ou ont disparu pendant la traversée. Des centaines de maisons ont été détruites et plus de 33 000 personnes ont été forcées d'évacuer leur foyer en raison des incendies dans le Colorado. Plusieurs personnes ont été hospitalisées. Dans le comté de Boulder, des centres commerciaux et plus de 650 hectares de végétation ont été brûlés. 370 habitations près de Sagamore ont été détruites et plus de 210 à Supérieur. Cet État américain connaît une sécheresse historique et des rafales de vent de plus de 160 km/h, compliquant les efforts des pompiers. Le gouverneur de l'État, Jared Polis, a déclaré l'état d'urgence. Fin d'année 2021 sous le signe de la Covid-19 avec des festivités annulées ou sévèrement encadrées, concerts interdits, réveillons limités à la bulle familiale. Le monde s'apprête à entamer en 2022 une troisième année de pandémie. Plus de détails avec Blanche Sanou.
La pandémie de COVID-19 a fortement accéléré cette semaine dans le monde avec plus de 1,1 million de cas quotidiens. La région Europe est celle qui enregistre actuellement le plus de cas dans le monde avec 4 490 612 ces 7 derniers jours, suivi de la zone États-Unis-Canada. L'Amérique latine et l'Océanie connaissent aussi une flambée de contamination. L'Asie est la seule région du monde où la pandémie connaît un léger reflux, moins 2%. En Afrique du Sud, premier pays à avoir signalé le nouveau variant Omicron, le couvre-feu a été levé de minuit à 4h du matin pour permettre les festivités. Ce pays a annoncé avoir dépassé le pic de la vague Omicron avec une augmentation seulement marginale des décès. Au plan mondial, les responsables sanitaires ont noté un recul des décès, soit 6330 décès enregistrés chaque jour cette semaine, un chiffre en baisse de 9%. Les États-Unis ont enregistré au total 824 339 morts depuis le début de la pandémie, suivis par le Brésil, l'Inde et la Russie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le bilan de la pandémie pourrait être 2 ou 3 fois plus élevé que celui officiellement recensé.
Tout comme les deux années précédentes, 2022 démarrera en effet dans un contexte de pandémie. Le point sur les célébrations du Nouvel An avec Ginny Kapumbu-Villa.
Le réveillon de cette année sera célébré ou pas sous le signe du Covid. De Séoul à San Francisco, les célébrations ont de nouveau été annulées ou réduites. Le Québec a rétabli le couvre-feu nocturne de 22h à 5h. Le Maroc a interdit l'organisation de soirées publiques et a instauré un couvre-feu entre minuit et 6h. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a annulé les festivités prévues à Trafalgar Square. Paris a annoncé l'annulation du feu d'artifice et des concerts prévus sur la célèbre avenue des Champs-Élysées. Toutefois, de timides signes de célébration sont présents. Sydney a accueilli la nouvelle année avec un grand feu d'artifice qui a illuminé le port emblématique de la ville. En Afrique du Sud, le couvre-feu a été levé de minuit à 4h du matin pour permettre les festivités. Les festivités de Rio de Janeiro sont maintenues. Dubaï tentera de battre le record mondial du plus grand feu d'artifice. À Times Square, à New York, les événements officiels seront réduits, mais de grandes foules sont tout de même attendues ce soir.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'économie en Afrique, on en parle dans La Minute Éco, présentée par John Lyndon.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a donné vendredi son accord final pour un budget 2022 record d'un peu plus de 17 milliards de naira, soit plus de 36 milliards d'euros, au moment où son pays, première économie du continent africain, fait face à une inflation galopante. Le Nigeria, premier producteur de pétrole d'Afrique, a été durement touché en 2020 par la pandémie de coronavirus et la chute des cours de l'or noir, vital pour son économie, provoquant, selon la Banque mondiale, une récession de moins 1,8% dans le pays. Le budget de 2022 est en hausse d'environ 26% par rapport à celui de 2021. Le géant de la voiture électrique Tesla vient de rappeler en Chine près de 200 000 véhicules potentiellement défectueux au niveau des coffres. C'est ce qu'annonce le régulateur chinois ce vendredi au lendemain d'un rappel similaire aux États-Unis où près d'un demi-million de Tesla ont été rappelés pour un problème identique. Les autorités sanitaires américaines ont recommandé jeudi d'éviter les croisières, y compris pour les personnes vaccinées, en raison de la forte augmentation du nombre de cas de COVID à bord des bateaux sur l'ensemble du globe depuis l'arrivée du variant Omicron.
À présent, les sports présentés par Élisée Onkpatine. Bonsoir Élisée.
Oui, bonsoir à tout le monde. À 10 jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de football, les cas positifs au coronavirus augmentent dans le rang des joueurs. Le Cameroun, pays hôte, enregistre déjà 4 contaminés, notamment Pierre Malong, Jean Ifala, Michael Ngadeu et Christian Bassogog. Ils vont poursuivre leur quarantaine à l'écart du groupe, annonce un responsable de l'Africa Foot. Une situation difficile pour les Lions Indomptables. À quelques jours de leur match d'ouverture face au Burkina Faso, les étalons, eux, en préparation à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, affrontaient hier la Mauritanie en amical. Score 0 but partout à l'issue d'un match engagé. Kamou Malo, le sélectionneur du Burkina Faso, tire son enseignement.
Vous voyez que ce n'est pas facile. On a dû charger en tout cas les deux séances un peu. Vous avez vu que ce soir, on a senti un peu de la lourdeur en tout cas dans les jambes. Mais ce n'est que des matchs de préparation parce que nous retenons que le rendez-vous, c'est vraiment pour le 9 pour nous devons arriver à cette date-là avec beaucoup de fraîcheur. Alors donc nous travaillons justement par rapport à ça. Sinon le contenu y est parce que tactiquement on est bien en place. C'est vrai même si on s'est créé des opportunités qu'on n'a pas pu et on n'a pas été peut-être réaliste devant les buts, c'est vrai. L'appétit viendra tout doucement parce que chaque personne ne veut rater cette canne. Donc ça fait que souvent il y a des difficultés à terminer proprement ces actions-là.
Des propos recueillis par Kader Traoré. Par contre, du côté de l'Algérie, en stage à Doha au Qatar, le doute plane toujours sur le premier match test des Fenech face aux Scorpions de la Gambie samedi. Le champion d'Afrique en titre rencontre aussi des difficultés avec 3 de ses joueurs testés positifs au Covid-19. Plusieurs joueurs testés positifs également pour la Côte d'Ivoire en regroupement à Jeddah en Arabie Saoudite, ce qui compromet aussi le match amical que les éléphants vont livrer contre les aigles du Mali. Par contre, un seul joueur est contrôlé positif au virus dans le rang des Super Eagles du Nigeria. Il s'agit de Victor Osimhen, l'attaquant de Naples, qui aurait pu manquer la CAN suite à sa blessure au visage, est placé en isolement, a annoncé son club. Il pourrait manquer le premier match du Nigeria au Cameroun face à l'Égypte.
Merci beaucoup, Élisée, pour cette page sportive. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Bénin, la lutte contre la corruption s'est intensifiée depuis le début du second quinquennat du président Patrice Talon. Plusieurs personnalités impliquées dans des scandales financiers ont été arrêtées. L'année 2021 aura révélé de grosses malversations financières, surtout venant de fonctionnaires, plombant ainsi la volonté du gouvernement de lutter contre la corruption et l'impunité. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradondé.
En 2018, soit deux années après son investiture, le président de la République a donné un signal fort concernant la lutte contre la corruption à travers l'introduction au Parlement pour modification de la loi numéro 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin et création de la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Pour Patrice Talon, pas de développement possible sans répression des malversations financière.
Les crimes économiques sont désormais imprescriptibles, notamment en ce qui concerne le bien public. Alors ceux qui aujourd'hui vont échapper à cette dynamique vont répondre un jour. Je souhaite que dans notre pays, enfin, on puisse répondre de ces actes.
Mais malheureusement, la détermination du gouvernement s'est heurtée à la ténacité des fonctionnaires et acteurs politiques épinglés pour malversation financière. Aucun secteur de l'administration publique n'a échappé au scandale financier. Le peuple ayant applaudi les réformes à très tôt déchanté.
Il a dit qu'il veut gérer bien le pays. Il a commencé. Et voilà où nous sommes aujourd'hui. Et par-ci, par-là, c'est un scandale un peu partout. Changer en haut là-bas, et puis nous, on change aussi en bas ici.
Certains Béninois sont têtus. Malgré les réformes effectuées par ce régime et véritable lutte contre cette corruption, les gens continuent encore, ils osent encore de détourner, de faire leur petit jeu. Je demanderai au gouvernement de continuer sans relâche, que tout le peuple est derrière lui.
À peine les premières arrestations effectuées que le gouvernement de Patrice Talon est accusé de faire une chasse ciblée. Pour Martin Sogba et Jean-Baptiste Elias de la société civile, c'est déjà un grand pas que des arrestations soient faites en matière de lutte contre la corruption.
Il faut que nous commençons quand même la lutte contre la corruption quelque part. Les autres gouvernements avaient fait la lutte contre la corruption de manière théorique. Si entre-temps, il a balayé chez les autres, comme certains le disent, et qu'il n'a pas balayé chez lui, mais il ne fera pas 50 ans au pouvoir, non?
La lutte contre l'impunité à l'ère du président Talon est beaucoup plus marquée. Et s'il y avait effectivement des personnalités qui sont dans son camp et qui sont concernées par cette lutte, qu'on n'hésite pas à les amener devant la justice pour qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures.
Les derniers mois de l'année 2021 ont été marqués par des scandales financiers venant de la part de personnes placées à des postes de responsabilité au sein de l'administration. Il s'agit de plusieurs milliards dérobés dans les caisses de l'État. Pour certains, le gouvernement doit durement sanctionner pour décourager.
Je pense que le gouvernement doit taper fort, parce que nous savons qu'il y a déjà des instruments qui sont mis en place pour pouvoir sanctionner les prédateurs de l'économie.
Il faut libérer l'information au niveau des médias. Tant que les médias qui font des investigations n'auront pas un accès libre à l'information et qu'ils seront sous la poursuite de recettes de documents administratifs, la lutte contre la corruption ne peut pas marcher.
Le mercredi 22 décembre 2021, un conseil des ministres l'examen d'un rapport d'inspection générale des ministères à la présidence de la République pour la période de janvier à juillet 2021 a permis de constater des insuffisances relatives à la gestion du patrimoine de l'État, à la performance ainsi qu'à la gestion administrative, financière et comptable des structures contrôlées. Il s'agit de plusieurs milliards de francs CFA détournés par des fonctionnaires. 2022 risque d'être mouvementé en termes d'arrestation ou détournement de deniers publics. De Cotonou, Jeanette Leadonné pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, 2021 a été une année difficile au plan sécuritaire et humanitaire. Les attaques terroristes se sont multipliées dans le pays, faisant des centaines de morts et des dizaines de milliers de déplacés. Rétrospective de notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Presque chaque semaine a eu son lot de violences dans le pays. La quasi-totalité des régions du pays est marquée par la présence d'hommes armés. Dans les rues à Ouagadougou, le sujet est une réelle préoccupation.
Le terrorisme surtout, c'est ça. On ne peut plus parler de djihadisme, ça c'est du terrorisme.
C'est les djihadistes qui m'ont marqué. Ils ne font que tuer nos enfants. Vraiment, nous, on n'est pas du tout contents. Seul, on est contents, là, on a bien menti. Nos enfants devaient nous enterrer, là. C'est nous qui passons les enterrer. Vraiment, moi-même, je suis dessus. Très, très dessus.
C'est l'évolution du terrorisme qui m'a beaucoup marqué. Ça a empêché beaucoup de choses de se réaliser.
La sécurité est loin devant la morosité économique et l'évolution de la pandémie du coronavirus dans le pays. Pour la nouvelle année 2022, ces Burkinabés espèrent que le pays sera davantage tranquille.
Moi, mon souhait est que par la grâce de Dieu, que la paix revienne dans le pays et qu'on vive encore dans la quiétude qu'on avait l'habitude de vivre. Le vivre ensemble actuellement a disparu. L'amour n'y est plus, l'entente n'y est plus. Chacun se regarde en chien de faïence. Sincèrement, c'est pas intéressant. Que Dieu fasse grâce et qu'il ait pitié de nous et exauce les prières des uns et des autres afin que la paix revienne dans le pays.
Nous souhaiterons que vraiment toute la population burkinabé s'unisse comme un seul homme. Laissons nos diversités politiques et consorts pour que nous, dans la main, mais dans la main, nous puissions quand même nous rassembler pour éradiquer cette fléau-là. Sinon, ça va nous atteindre tous. Ça, c'est inévitable.
Je prie Dieu que 2022 là soit une année de paix surtout, de santé et de prospérité. Beaucoup, beaucoup de joie et puis moins de problèmes. On prie Dieu que ça s'arrête comme ça.
En attendant un bilan clair des autorités, les attentats terroristes ont fait plusieurs centaines de morts en 2021 au Burkina Faso, occasionnant près d'1,5 million de déplacés selon le ministère de l'Action humanitaire. 2022 verra-t-elle la fin des violences dans le pays? En tout cas, c'est le souhait de tous ici. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
L'Afrique du Sud continue de rendre hommage à Desmond Tutu, l'une des figures majeures de la lutte anti-apartheid, décédé dimanche à 90 ans. Ses funérailles auront lieu samedi. Ces deux derniers jours, son cercueil a été exposé dans la cathédrale anglicane de la ville du Cap. De nombreux Sud-Africains sont venus saluer une dernière fois le prix Nobel de la paix. Un reportage de Patricia Huon.
Cap, les cloches de la cathédrale Saint-Georges sonnent pendant 10 minutes. C'est ici que Desmond Tutu fut archevêque de 1986 à 1996. Aujourd'hui, des centaines de citoyens sont venus se recueillir devant sa dépouille, noire, blonde, de tous âges.
Tutu, it was a freedom fighter.
Tutu était un combattant pour la liberté. Ce qu'il nous a laissé en héritage, c'est de pouvoir s'aimer les uns les autres sans discrimination.
We came as a family to pay our respects.
Nous sommes venus en famille pour rendre hommage à un homme qui a été courageux dans une période difficile. C'était un vrai leader. Il représentait l'honnêteté. C'est un moment historique. C'est une icône de notre histoire qui est décédée.
Certains profitent du moment pour rappeler à leurs enfants qui était Desmond Tutu et leur enseigner un peu de l'histoire du pays.
He first followed in his father's footsteps as a teacher, but abandoned that career after the passage.
Il a d'abord suivi les pas de son père dans l'enseignement, mais il a abandonné cette carrière après la loi sur l'éducation bantoue en 1973. Vous savez ce qu'est cette loi, non? Ils doivent connaître leur histoire, ils doivent connaître les luttes. Cela montre à quel point ils grandissent à une époque différente. Mais ils doivent connaître leurs racines.
À l'entrée de la cathédrale, un livre de condoléances a été placé. La plupart des visiteurs s'arrêtent pour y poser quelques mots.
I said,
Thank you for being South Africa's official hype man.
J'ai écrit. Merci beaucoup d'avoir été celui qui remontait le moral de l'Afrique du Sud. Même lors de l'ouverture de la Coupe du Monde de football en 2010, il était l'homme le plus heureux, le plus souriant. Et je pense que dans un pays comme l'Afrique du Sud, où il y a beaucoup de cynisme, c'était formidable d'avoir quelqu'un avec une telle énergie.
À l'intérieur, un simple cercueil de pain fermé sur lequel est posé un bouquet d'œillets. Avant sa mort, Desmond Tutu avait insisté pour que ses funérailles ne soient pas fastueuses. Ce samedi, une cérémonie religieuse marquera le dernier hommage à cet homme de foi et de conviction. Son corps sera ensuite incinéré et ses cendres placées derrière la chaire de la cathédrale. Le Cap, Patricia Huon pour VOA Afrique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Joe Biden et Vladimir Poutine ont conclu hier un entretien pour sortir de la crise ukrainienne. Le président américain Joe Biden y a participé depuis Wilmington, dans le Delaware, où il passe les fêtes de fin d'année en famille. Quelques heures avant l'appel, le deuxième en moins d'un mois, Vladimir Poutine s'était dit convaincu qu'un dialogue fondé sur le respect mutuel était possible. Pour une analyse de cet échange, John Linden a joint Brett Bruen, président de Global Situation Room.
On peut dire que les relations sont beaucoup plus fragiles et en ce moment, nous sommes en train de regarder les efforts, surtout de Poutine, d'essayer de changer un peu ces relations vers peut-être plus de pouvoir pour Moscou.
Sur le dossier de l'Ukraine, les deux pays préconisent le dialogue. En tout cas, c'est ce qui ressort de leur entretien téléphonique d'hier. Mais on a l'impression que chacun reste campé sur ses positions. Il n'est pas exclu que la Russie envahisse l'Ukraine et les États-Unis brandissent toujours la menace des sanctions. Que faire pour rassurer toutes les parties?
Bon, je crois que c'est une danse diplomatique et on est en train de voir comment la Russie exige certaines préconditions pour ne pas faire une invasion de l'Ukraine. Mais en même temps, les États-Unis ne vont pas leur donner toutes ces demandes parce que, en fait, la menace que Poutine est en train de faire maintenant, c'est vraiment pour capturer plus de bénéfices, plus d'avantages pour la Russie vers ses voisins. Et je crois que l'équipe de Biden ne va pas l'accepter.
Oui, mais on a vu aussi la même Russie envahir la Crimée et rien ne s'était passé au point de vue de la communauté internationale.
Oui, et c'est vraiment ma préoccupation en ce moment qu'on va faire la même stratégie, c'est-à-dire qu'on va imposer des sanctions économiques que pour Poutine n'a pas vraiment eu un impact et il accepte que c'est le prix qu'il devrait payer pour avoir tout cet avantage. Alors, en ce moment, nous avons besoin des autres moyens par lesquels on peut faire de pression sur Moscou.
Et l'une des préoccupations justement de Moscou, c'est que l'OTAN n'élargisse pas son champ en se rapprochant de ses frontières. La Russie a-t-elle raison d'avoir peur?
La Russie n'a aucune raison. Il n'y a aucune action de la part de l'OTAN vers la Russie, vers une expansion. Bien sûr, il y en a des pays comme l'Ukraine qui voudraient être membres, mais en ce moment, il n'y a pas d'action que l'OTAN a pris en termes d'une expansion. Alors, c'est vraiment un prétexte pour lequel Poutine utilise cette menace pour justifier ses actions.
Brett Bruen est le président du cabinet d'affaires publiques Global Situation Room. C'est la fin de cette édition. Merci à l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Nous vous souhaitons une excellente fin d'année 2021. À très bientôt.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone sur 99 FM Abidjan, Rada FM 90.5 Mbujimayi, 93.5 FM Lomé, Kledou FM 90.5 Sikasso Mali, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.